bienvenue sur les chroniques de la Revue française de comptabilité à l'occasion de la parution de son 600e numéro. Et oui, des 70 ans de la revue, la RFC publie une édition spéciale. Et dans cette chronique, eh bien, nous allons nous plonger dans l'article de Patrick de Cambourg. Il est président de l'EFRAG SRB, alors on prononce EFRAG SRB. Son article s'intitule « Durabilité, le second pilier de l'information normée des entreprises ». Alors pour commencer, l'article pose un constat assez fort sur l'information financière. Malgré tous ses progrès, elle a, disons, ses limites. Elle est souvent rétrospective, un peu court-termiste peut-être, et elle a du mal à capter l'immatériel, certains risques. L'auteur parle même d'un écart très important entre les valeurs comptables et les valeurs réelles.
Oui, tout à fait. Et c'est précisément ce constat qui amène à l'idée de construire ce que l'article appelle un second pilier. Ce pilier, c'est l'information de durabilité. Donc tout ce qui touche à l'environnemental, au social, à la gouvernance, l'ISG. Et on voit bien un mouvement de fond. On passe d'initiatives plutôt privées, volontaires, à de vraies politiques publiques. Forcément, l'urgence climatique, l'accord de Paris, les ODD, tout ça pousse dans le sens. Et puis il y a ce besoin crucial de mobiliser les capitaux pour financer les transitions.
D'accord. Mais alors, si on veut construire ce nouveau pilier, il faut des briques solides. Et là, visiblement, il y a un souci avec la qualité des données ESG.
Ben oui, c'est un obstacle majeur qui est souvent revenu. L'article le rappelle bien, en citant l'OCDE ou la Commission européenne, le constat en 2021 était assez clair. Des données peu comparables, des demandes d'informations qui partent un peu dans tous les sens, coûteuses, pas coordonnées, et même parfois des doutes sur la fiabilité pure et simple de ces informations.
Et ça, j'imagine que ça pose de sacrées questions aux régulateurs.
Exactement. Des questions vraiment méthodologiques et politiques. Par exemple, qui doit publier ? Seulement les grosses boîtes cotées ou un périmètre plus large ? Et sur quoi ? On se concentre sur le climat ou on prend tout le spectre ESG ? Et puis la question clé de la matérialité. Est-ce qu'on regarde l'impact financier sur l'entreprise ou l'impact de l'entreprise sur la société, l'environnement ? Ou alors est-ce qu'on fait les deux ? C'est ça la fameuse double matérialité. Et derrière, bien sûr, faut-il des normes obligatoires qui les écrivent ? Faut-il un audit, une vérification ? Tous ces choix, ils déterminent l'ambition du système et aussi comment il va s'articuler avec ce qui se fait ailleurs dans le monde.
Alors justement, l'Europe, comment a-t-elle répondu à tout ça ? On entend beaucoup parler de la CSRD.
Oui, la CSRD, c'est vraiment la pièce maîtresse de la réponse européenne. La Corporate Sustainability Reporting Directive, adoptée fin 2022, elle change radicalement la donne. Elle rend le reporting de durabilité obligatoire pour un nombre très important d'entreprises. On parle d'environ 45 000 entités en Europe. Ça couvre les grandes entreprises, mais aussi les PME cotées. Et le point vraiment fondamental, c'est qu'elles devront publier leurs impacts, leurs risques, leurs opportunités, en suivant ce principe de double matérialité.
D'accord. Donc le quoi reporté est défini par la double matérialité, mais le comment, il y a des règles précises. Les ESRS, c'est ça ?
Tout à fait. La CSRD ne vient pas seule, elle s'appuie sur des normes techniques FIR. Les ESRS, European Sustainability Reporting Standards, et c'est l'EFRAG, SRB donc, EFRAG SRB, qui est chargé de les élaborer. C'est l'organisme technique européen, en quelque sorte. Un premier jeu de 12 normes a été adopté à l'été 2023. Elle couvre l'ensemble des sujets ESG de manière assez complète. Elle s'inspire de cadres qui existaient déjà, comme la GRI, la TCFD, et elles sont pensées pour être interopérables, notamment avec ce que développe l'IFRS au niveau international. Et point très important, cette information devra être auditée, vérifiée par un tiers, et publiée en format numérique via une future plateforme européenne, l'ESAP. Donc on voit bien là la structure qui se met en place, un pilier financier, et à côté, ce nouveau pilier durabilité, bien normé, bien structuré.
C'est très clair, mais on entend aussi parler d'ajustements, de simplification. Est-ce que l'Europe serait en train de, de revoir un peu ses ambitions à la baisse ?
Je ne dirais pas à la baisse, mais plutôt qu'il y ait une volonté d'ajuster avec pragmatisme. L'article parle d'un second temps. Il y a cette proposition omnibus qui a émergé mi-2024. L'idée, c'est d'assurer la proportionnalité, de tenir compte des enjeux de compétitivité des entreprises européennes. Concrètement, ça pourrait vouloir dire, par exemple, remonter certains seuils de taille pour définir qui est une grande entreprise soumise à toutes les obligations. Peut-être rendre le régime volontaire ou simplifié pour certaines catégories. C'est en discussion. Et en parallèle, l'EFRAG lui-même travaille à simplifier les normes ESRS. On attend leur avis là-dessus pour fin 2025.
D'accord. Et quid des PME non cotées ? Parce que bon, elles représentent quand même l'immense majorité du tissu économique. Est-ce qu'elles sont oubliées ?
Alors, c'est un point absolument crucial et l'article insiste dessus. Alors, pour les PME cotées, il y a bien une norme ESRS obligatoire, mais elle est allégée, c'est la norme LSME. Mais surtout, pour les millions de PME non cotées, l'EFRAG a développé une norme spécifique, volontaire celle-là, la VSME. Elle est vraiment très très allégée, on parle de 20 ou 30 points de données maximum. L'objectif, c'est de leur donner un outil simple pour répondre aux demandes d'informations qui remontent de la chaîne de valeur, leurs clients, leurs banques, et de les aider à s'engager dans la transition sans leur imposer une charge administrative trop lourde. Il y aura même des outils numériques pour les aider. Après, évidemment, le succès de cette norme volontaire dépendra beaucoup de son adoption par le marché lui-même.
On comprend mieux. Donc, on a une Europe qui affiche une ambition forte sur la durabilité, mais qui cherche en même temps à être pragmatique, proportionnée dans la mise en œuvre.
C'est exactement ça. L'enjeu, au final, c'est d'avoir l'information fiable dont on a besoin pour piloter les transitions, pour orienter les investissements. Et l'article conclut sur une note assez belle, je trouve. Il dit qu'en réussissant cette mise en œuvre pragmatique, proportionnée, en Europe, tout en favorisant l'interopérabilité mondiale, eh bien, c'est comme ça que la génération actuelle pourra, je cite, « se considérer comptable de son action vis-à-vis des générations futures ».
C'est une perspective qui donne effectivement beaucoup de sens à tout ce travail technique. Une belle réflexion pour terminer, peut-être une question à laisser à celles et ceux qui nous écoutent. Au-delà des chiffres et des normes, comment cette évolution vers plus de transparence sur la durabilité va-t-elle transformer en profondeur le dialogue entre l'entreprise et l'ensemble de la société ?
La Revue française de comptabilité vous remercie et vous donne rendez-vous sur le site revuefrancaisedecomptabilité.fr.